On prend des nouvelles du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Lendemain de budget, on en parle partout, budget fédéral 2025. Dans Franco-Presse, on n'écrit rien pour la francophonie.
Oui, c'est ça, on en parle, mais on n'a pas grand-chose à dire pour les francophones en Québec. On n'a vraiment rien trouvé qui touche aux divers dossiers proches de la francophonie, donc ni en culture, très peu en immigration, je vais y revenir, et rien en éducation. Les seules petites bonnes nouvelles, c'est une injection de 150 millions de dollars pour CBC Radio-Canada l'an prochain. C'est seulement sur une année, mais ça peut profiter aux stations régionales en milieu minoritaire. Il y a 4 millions aussi qui va être réservés à la fête nationale des Acadiens et des Acadiennes. La seule mention du mot francophone, francophonie hors Québec est en lien avec l'immigration. Le gouvernement révise très légèrement ses cibles d'accueil de résidents permanents. Ça va être 9% en 9,5% en 2027 et 10,5% en 2028. C'est une diminution à peu près de 0,5% avec ce qui avait été annoncé il y a un peu plus d'un an par Justin Trudeau. Mais c'est encore possible d'atteindre la cible de 12% d'ici 2030, qui est demandée par la Fédération des communautés francophones et acadiennes et qui a été promise par Mark Carney en campagne électorale. Par contre, il va y avoir une forte diminution des résidents temporaires. Ça inclut les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers. Concernant les étudiants, on passe de 360 000 places à 155 000 places l'an prochain, donc presque la moitié moins, même plus que la moitié moins, 150 000 après ça les années suivantes. Le détail qui nous manque, c'est combien de places là-dedans sont réservées pour les établissements postsecondaires francophones qui sont un peu plus dépendants de cette clientèle-là.
Et on s'en va en Nouvelle-Écosse. L'église Sainte-Marie de Pointe de l'Église garde son statut patrimonial. Bonne nouvelle, ça?
Oui, en effet. Puis je vous en avais parlé, cette église-là, au mois de mai, alors que c'est une ancienne église acadienne de la Nouvelle-Écosse. Puis à ce moment-là, le Conseil international des monuments et des sites du Canada avait lancé une alerte internationale pour appeler à la protection de cette église-là. Ce qui est arrivé la semaine dernière, c'est que la province a abandonné sa demande de retrait de statut patrimonial de Clacfort de l'archidiocèse. Puis l'archidiocèse et une association de citoyens ont commencé des discussions pour voir qu'est-ce qui allait arriver, qu'est-ce qui allait faire de l'édifice, comment il allait peut-être transférer de la propriété, sait-on jamais. L'ancienne église, c'est un des plus grands bâtiments en bois en Amérique du Nord, puis il y a une conception unique. Elle est inutilisée depuis quelques années, puis il faut se dépêcher à la préserver, là, parce qu'elle tombe pas en ruine, là, mais elle a besoin de beaucoup d'amour et de réparation. Et d'ailleurs, il y a une réparation du toit qui doit être faite absolument avant l'hiver. Et il y a donc une collecte de fonds qui a déjà été lancée pour ramasser de l'argent pour le faire.
Oui, parce que plus on attend, plus ça coûte cher.
C'est ça.
Dans l'Express, place aux jeunes au premier sommet francophone de la finance.
Ça a eu lieu, ça s'appelait le sommet francophone de la finance et de l'investissement. Ça a été présenté par le Club canadien de Toronto les 28 et 29 octobre. L'idée est venue au directeur général du club quand il a constaté qu'il y avait un grand manque d'accès à littératie financière, et c'est encore plus le cas quand on cherche des ressources en français à Toronto. Le sommet a déjà attiré pour sa première édition 350 participants. Il y avait 70 panélistes et des experts qui ont offert 24 conférences et ateliers. Puis un des thèmes, c'était la littératie financière pour les jeunes. Et il y avait des jeunes dans les participants aussi. Lors d'une conférence, il y a un panéliste qui a donné en exemple le système d'éducation qui, selon lui, forme davantage des consommateurs plutôt que des investisseurs ou des gens qui pensent à faire fructifier leur argent. On se limite donc dans les cours à parler de comment payer son loyer, ses impôts, comment utiliser le crédit. Donc, on n'aide pas à construire des esprit critique par rapport à l'argent ou une connaissance historique et sociale et politique de l'investissement et de l'argent. Il semble que ça a été un succès, ce premier sommet-là, donc on souhaite le répéter l'année prochaine et peut-être même le tenir sur 3 jours au lieu de seulement 2.
Maintenant, le réseau en immigration francophone du Manitoba présente ses projections, on en parle dans La Liberté.
Oui, alors que les consultations publiques menées par la province pour faire du Manitoba une province véritablement bilingue, ces consultations-là tirent à leur fin. Il y a un rapport présenté par le réseau qui détaille le poids démographique des francophones au Manitoba et le rôle de l'immigration pour augmenter ce poids démographique-là. C'est qu'entre 1971 et 2021, le nombre de francophones au Manitoba est passé de 62 000 à 38 000 personnes. La conséquence de ça, c'est que le poids démographique a chuté inégalement. Il est passé de 6,3 % en 71 à 2,9 % en 2021. Avec une proportion d'immigration francophone à 5 % comme ça a été le cas en 2024, le poids va continuer à diminuer. Donc, le réseau en immigration francophone du Manitoba réclame une cible de 15 % pour faire remonter le poids démographique. Je vous indique que c'est encore plus que le 12 % demandé par la FCFA et promis par les libéraux qu'on mentionnait tantôt. Donc, à 15 % les francophones représenteraient en 2046 4,3 de la population, % de la population, selon les calculs du réseau. Puis, ça ferait doubler la population francophone en âge de travailler. Puis, au-delà du poids démographique, bien, accueillir plus d'immigrants francophones, ça va aussi être un pas positif dans la création d'une province véritablement bilingue, qui est l'intention présentée par le premier ministre.
Et, Julien, vous parlez maintenant de Jasper. Après les flammes, la solidarité reprend vie à Jasper.
Oui, la communauté se remet tranquillement des incendies de l'été 2024. Pour la communauté francophone, la récupération est un peu plus longue parce que les services dans leur langue sont plus rares. C'est l'un des cas, c'est surtout le cas pour les services de santé mentale. Heureusement, l'Association francophone de la ville a reçu l'aide de la Croix-Rouge pour organiser quelques événements pour se rassembler et parler de santé mentale. Le premier a eu lieu en octobre, c'était un souper spectacle. Puis c'était aussi un prétexte pour présenter donc les services disponibles et comment y accéder. Il va y avoir une autre activité en février où l'accent sera encore plus mis, ça va être plus des ateliers sur la santé mentale.
Ensuite, dans Franco-Presse, on y revient, 55 % des étudiants francophones du Canada choisissent l'anglais.
Une étude qui a été présentée par Statistique Canada récemment qui a calculé que plus de la moitié des jeunes francophones de l'extérieur du Québec poursuivent leurs études postsecondaires en anglais, non pas en français. La tendance était connue, mais c'est la première fois qu'on a des données précises sur la façon que les choix des jeunes comme ça. Il y a quand même une grande variation selon les régions. Par exemple, dans le nord et le sud-est du Nouveau-Brunswick, il y a plus de 85 % des finissants des écoles secondaires francophones qui vont étudier en français. En Ontario, dans l'est et le nord, c'est autour de 72 %. Mais dans les autres provinces, ça peut facilement tomber sous la moyenne de 45 %, la moyenne nationale. La raison principale, c'est une question de disponibilité des programmes. Il y a plusieurs programmes qui n'existent pas en français à l'extérieur du Québec, puis certains sont disponibles seulement dans quelques institutions, principalement l'Université d'Ottawa et l'Université de Moncton. Finalement, les établissements postsecondaires aussi n'ont pas toujours des programmes parascolaires très développés. On n'a pas d'équipe sportive, par exemple. Donc, ça peut être moins intéressant pour qu'il y ait un francophone qui est très sportif d'aller dans une école francophone. Il y a quelques solutions qui sont envisagées. La Fédération de la jeunesse canadienne française demande la création d'un système de bourse pour des études en français, mais on a pu vérifier maintenant et on sait que ce n'est pas dans le budget de cette année. Puis, il y a des partenariats d'échange entre des établissements qui sont aussi en cours de conception.
Bon, alors, on termine avec, c'est une triste nouvelle, puis en même temps, une nouvelle qui réconforte, mais c'est que Fayot, Mario Leblanc, n'est plus. Mais dans le moniteur acadien, on écrit l'artiste Mario Fayot Leblanc, productif jusqu'à la fin.
Oui, M. Leblanc est décédé l'année dernière, en septembre 2024.
Il n'était pas vieux, hein?
Non, il était...
46 ans.
Exactement, merci. Non, c'est ça, il est mort un peu... Ça a pris la communauté par surprise. Et le Centre d'études acadiennes de l'Université de Moncton a accueilli officiellement ses archives... dimanche dernier. Puis en faisant tri des effets de ses effets personnels, ses sœurs ont découvert des enregistrements de trois nouvelles chansons qui étaient destinées à un album qui ne verra jamais le jour, malheureusement. Apparemment, il y avait une centaine de chansons en chantier, mais c'était ces trois-là qui étaient prêtes et il avait laissé des notes pour qu'elles soient publiées. Donc les trois chansons ont été... On a créé un mini-album avec les trois chansons qui s'appelle « Ma valise » et c'est disponible déjà sur les plateformes d'écoute.
Et sa plus connue est Chico Haricot?
Oui, j'ai entendu souvent celle-là nous, à la radio. C'est une des chansons les plus connues de M. Fayot.
On va se laisser avec cette chanson. Merci beaucoup, Julien. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.